podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
De la Terre à la Lune, une mini-série créée par Tom Hanks et Ron Howard après Apollo 13, nous raconte la conquête spatiale américaine au travers du programme Apollo. Ici cependant, on ne nous montre pas uniquement des petits astronautes dans une fusée, mais on nous explique les enjeux importants de l'époque d'être la première nation à mettre le pied sur la Lune et la grande portée médiatique que ces missions ont pu avoir. Pour nous en parler aujourd'hui, Cindy Willem.
Bonjour.
Et pour en discuter avec nous autour de la table, Nathanaël Picasse et Tilman Villette.
Bonjour.
De la Terre à la Lune, c'est donc une mini-série de 12 épisodes de 60 minutes qui est sortie donc il y a quelques années déjà, vu qu'elle est sortie en avril 1998 sur la chaîne américaine HBO et qui sera diffusée par la suite en France sur Canal+ en juin 1999. Créée par des personnes qu'on connaît déjà sur le grand écran, la série va suivre l'histoire de la conquête spatiale américaine. Elle va donc aller du premier homme envoyé dans l'espace en 1961 jusqu'au dernier alunissage américain en 1972.
Ce qu'on remarquera aussi, très particulier avec les Américains, c'est qu'il y avait une telle conquête de la Lune et puis ils sont allés quelques années et puis pouf, plus rien pendant plus de 40 ans maintenant. Bon, maintenant ils ont annoncé qu'ils allaient enfin y retourner, mais c'est assez étrange de voir que c'était genre juste histoire de dire on l'a fait et puis plus rien. Je trouve ça intéressant de ce genre de reportage quelque part parce qu'on se rend compte aussi de... On avait l'impression que c'était un peu une sorte de rêve de gamin et puis une fois que c'est réalisé, bon ben c'est fait, allez hop, on passe à autre chose.
On aura bien le temps d'y repenser plus tard quand on aura l'argent.
Oui, voilà, et puis donc ça montre bien que c'est pas seulement un rêve de gamin mais c'est aussi beaucoup d'enjeux qui sont derrière et donc justement la série comparée au film Apollo 13 qui a aussi été réalisé par Ron Howard auparavant, on n'est pas face ici à une épopée banale comme on a eu l'habitude de le voir. Tout le monde a déjà pu voir les images de Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune et tout ça. L'aventure ne se situe pas seulement ici sur la conquête spatiale dans l'espace, mais c'est aussi et surtout une affaire politique. Derrière tout ça, il y a de grands enjeux et une grande portée médiatique. Donc une affaire politique premièrement, on le remarque, vu qu'au début de la série, on est en 1961, les Russes ont envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Ça plaît donc pas trop aux Américains.
Surtout d'ailleurs qu'ils se sont déjà fait damer le pion, ne fût-ce qu'avec le Spoutnik qui a tourné et qui a fait envoyer son bip. C'est déjà la deuxième fois qu'ils se font avoir, les Américains.
Ouais, voilà, donc ils sont un peu jaloux, je pense, et il faut remédier à ça. Ils vont décider qu'un programme doit être mis en place pour faire plus fort que les Russes et donc il faut aller marcher sur la Lune.
Oui, parce qu'on est en plein contexte de guerre froide aussi, évidemment, entre les Américains et les Russes. C'est pas seulement tu verras que je suis le plus fort, mais c'est presque la guerre quand même.
Ouais, voilà. Et donc, pour eux, justement, aller sur la Lune, ce serait avoir le pouvoir parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne sont pas les premiers à y aller, le monde va devenir communiste et donc ils vont perdre la guerre.
Moi, je me demande un petit peu le point de vue de cette série, justement, par rapport aux Russes. Est-ce que la série a une vision très américaine des choses ou bien est-ce que... Elle est en tout cas de rester le plus impartiale.
Ah oui, c'est vraiment une vision ici américaine. D'ailleurs, tout ce qui est musique, tout ce qui est image, on se rend bien compte que c'est un point de vue américain et on laisse peu de place aux autres.
La glorification de la puissance américaine, et, on parle quand même du syndrome russe à côté ou pas?
La Russie est évoquée au début de la série en fait. Dans le premier épisode, on nous dit qu'un russe est allé dans l'espace et donc il faut faire quelque chose quoi. Parce que juste envoyer une sonde pour avoir des résultats, des tests, c'est pas suffisant. Il faut faire plus fort, il faut envoyer quelqu'un sur la Lune. Mais c'est vrai qu'on le remarque beaucoup et au travers de la musique, on ressent fort le patriotisme au travers de la musique de la série, empreint de liberté, donc qui est le symbole de l'Amérique. Maintenant, à côté de ça, cette conquête spatiale, c'est une affaire politique, mais on remarque que l'aventure va être aussi envisagée d'un autre point de vue que celui qu'on a pu voir dans Apollo 13. Elle va être envisagée d'un point de vue médiatique. Donc on va avoir la présence de la presse, de la télévision, les journalistes vont entrer en jeu. Et en tant que spectateur, on pourra se rendre compte vraiment de la portée que ça a pu avoir à l'époque. Et donc, cet angle médiatique, c'est vraiment la particularité de la série, je dirais, comparée au film.
Oui, on se souviendra tous que je ne sais pas combien de milliards de personnes ont regardé lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Ça a été ultra médiatisé, effectivement. C'était aussi un enjeu pour les télévisions. Je suppose qu'au niveau des rentrées publicitaires à ce moment-là, ça devait être extrêmement important.
Et justement, tant qu'à parler de ça, est-ce que les images d'archives sont utilisées dans la série ?
Les images d'archives sont utilisées, oui. C'est justement ce qui donne un peu l'effet poignant de la série, le renvoi au réel aussi, et donc le mélange réel-fictif donne très bien.
Et c'est pas pour rien que c'est Tom Hanks derrière, puisqu'elle a eu l'habitude de ce type de procédé avec Forrest Gump, où le personnage était intégré à des images d'actualité d'époque.
Oui, voilà, tout à fait.
Les Russes ont volé en orbite.
Une seule orbite, oui.
Nous, on n'y arrive même pas.
Pour l'instant.
Messieurs, le président s'est tenu informé de vos discours devant le Congrès, de tous vos comités. Et à propos de la conférence de ce soir, je pense qu'il faut oublier les questions secondaires. Ce que le président veut savoir, c'est si on peut battre les Russes.
On pourrait envoyer un homme avant eux sur la Lune, par exemple. Cela sous-entend un véritable effort national, quelque chose du même genre que ce qui a conduit au projet Manhattan.
Combien cela coûterait ?
Je dirais entre 10 et 20 milliards de dollars.
Injecter une telle somme dans le secteur privé est une action qui peut être très populaire.
J'allais demander si nous pouvions agir sans que ce soit le contribuable qui débourse. Et si nous mettions au point une espèce de laboratoire spatial.
Ils nous battront. Si on s'engage dans la course avec eux et qu'on décide de lancer le projet énorme d'installer un laboratoire spatial, tout ce qu'on obtiendra, c'est qu'on perdra 5 années d'avance sur eux.
Auriez-vous dit ça à l'époque où vous travailliez pour Eisenhower ?
Non, mais les Russes n'avaient envoyé personne dans l'espace. Bien évidemment. La Lune est leur prochain objectif.
Une Lune communiste ?
Une sacrée menace sur nos têtes.
En tant que conseiller scientifique auprès du président, je me dois de l'informer que, politique mise à part, il n'y a aucune raison d'envoyer un homme sur la Lune. C'est trop d'argent dépensé pour de vulgaires cailloux. On envoie une sonde dans l'espace, on la récupère, et après, il suffit de révéler au monde entier la nature des informations recueillies. Plus la peine d'envoyer un type à plusieurs millions de kilomètres. Et en plus, ça ne nous coûtera pas 20 milliards de dollars.
Oui, sauf que le président est conscient que si un homme pose le pied sur la Lune, cet exploit marquera un pas décisif dans l'histoire du monde.
Surtout s'il plante le drapeau américain avant de repartir.
Nous y allons. Le président peut-il s'attendre à quelque chose dans un futur proche ?
Oui. Le 2 mai. Il y aura un Américain dans l'espace le 2 mai.
Le président, à l'époque, c'était John Fitzgerald Kennedy. D'ailleurs, en 1961, c'est lui qui propose qu'on marche sur la Lune. Et par la suite, on verra aussi, par exemple, son enterrement quand il se fera assassiner. On verra aussi l'assassinat de son frère.
Mais c'est probablement pas pour rien que, justement, le tout premier président médiatique ait mis sur pied une telle opération médiatique, finalement.
C'est bien parce que, visiblement, la série parle non seulement de la conquête de l'espace, mais effectivement de retrace tout ce contexte très particulier qui était à l'époque, cette médiatisation exagéré aussi, hein, c'était énorme évidemment, mais cette surmédiatisation à la fois du président, à la fois de la conquête spatiale, on est vraiment plongé dans l'époque. Tous les éléments, je suppose, dans la série nous plongent aussi dans cette époque-là. Je veux dire, c'est des images d'archives, c'est la musique, c'est tout.
Oui, voilà, exactement. Et tous les enjeux de l'époque face à la guerre contre le communisme, on se rend bien compte au début qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a vraiment deux parties en fait dans cette série. Il y a les 6 premiers épisodes et les 6 derniers. Dans les 6 premiers épisodes, ça nous raconte la conquête de la Lune, vu que à la fin du 6e, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Donc au début, il y a vraiment beaucoup de pression sur les épaules des astronautes, car l'alunissage est encore incertain, il ne faut pas échouer, sinon le gouvernement américain aura perdu des milliards de dollars aussi. Donc on est vraiment dans une atmosphère sérieuse et plus patriotique, qui laisse peu de place pour l'humour, c'est donc un peu dommage. Maintenant, ce qui va donner un peu de fun aux épisodes, ça va être la musique de Sinatra. Des musiques qui correspondent assez bien au style d'ailleurs de la série. Donc à la fin de l'épisode 6, les 3 astronautes vont réussir leur alunissage. Ça va être d'ailleurs un moment très émouvant et très fort, vu qu'on va le mélanger à des images réelles, le moment où Neil Armstrong pose le pied.
Images réelles, enfin il y a toujours eu quand même ce doute quand même par rapport à ces images, comme quoi ils n'ont jamais réussi à aller sur la Lune et que ça a été tourné par un certain Stanley Kubrick. Est-ce que c'est évoqué dans la série ? Bon, je suppose que non, vu le patriotisme qui s'en dégage, peut-être qu'ils auraient pu parler du fait que certains personnes ont émis des doutes par rapport à la réussite vraiment de ce programme.
Oui, non, ils n'en parlent pas du tout justement, parce que je pense aussi que c'est une série américaine et que c'est très patriotique, comme tu viens de le dire.
C'est aussi une série très éducative, à mon avis. C'est un truc qu'on pourrait passer dans les écoles pour apprendre. Et donc, de ce fait-là, il n'y a pas place pour ce genre d'à côté.
Oui, voilà. C'est le genre de série qu'on pourrait passer dans les lycées pour un peu montrer comment ça s'est réellement passé, les enjeux qu'il y avait derrière. Parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de ça. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que... On se centre beaucoup trop, je trouve, dans les bâtiments de la NASA, et le point de vue médiatique, c'est bien, parce que ça nous apporte des éléments plus concrets, mais on n'a pas trop les réactions des personnes, de la population à ce moment-là. On aurait pu voir, par exemple, des personnes en face de leur télévision, voir le premier homme marcher sur la Lune. On a du mal à se sentir proche aussi des personnages, je pense.
C'est-à-dire, on a les personnages de la NASA, les personnages autour du président, les décideurs, mais on n'a pas le peuple autour.
Voilà, on n'a pas le peuple du tout. D'accord. Et ça, c'est peut-être un peu dommage.
Mais est-ce que, justement, le problème de montrer que cet avis des classes dirigeantes, c'est pas aussi un petit peu risqué de biaiser le discours, puisque tout le monde est d'accord avec tout le monde, en fait, puisqu'ils sont tous dans le même panier. Donc, il n'y a pas d'avis contraire, en gros. Aucune critique de ce programme, aucune remise en question, même parfois rien du tout, quoi. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un petit peu le fil conducteur aussi de la série, semble-t-il. Quoi.
Oui, en fait, le seul avis contraire qu'on pourrait avoir, un membre dit on pourrait juste envoyer une sonde pour avoir des résultats. Après ça, on n'a plus rien du tout, c'est juste la conquête spatiale et les opérations qui vont suivre.
C'est ce qui explique aussi le désintérêt qu'on a eu après pour la conquête spatiale, c'est que c'était pas pour la science qu'on le faisait, c'était pour le fait de le faire. Et une fois qu'on l'a fait, on ne s'y intéresse plus. Et bon, ils ont fait après certainement d'autres tests, mais c'était nettement moins spectaculaire, c'était certainement moins médiatique. En tout cas, et c'est bien de pouvoir mettre le doigt aussi là-dessus. Je pense que c'est un bon documentaire dans la mesure où c'est aussi un documentaire sur les médias.
C'est d'ailleurs ce qui était montré dans le film Apollo 13, quand on voit le début du film avant que l'accident ne se produise.
Il y avait un désintérêt total.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la famille des pilotes espérait qu'on voit les maris à la télévision, et même la télévision ne diffuse plus parce que ça n'intéresse plus personne.
Oui, une fois que les Américains ont mis le pied sur la Lune, c'est vraiment le désintérêt de tout le monde, des médias en tout cas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enjeux derrière ça, et c'est pour ça que les gens suivaient l'événement. Et après ça, eh bien, l'atmosphère s'est un peu détendue, et ça se ressent très fort aussi dans la série, vu que, par exemple, à l'épisode 7 de la série, on nous raconte la mission Apollo 12. Et les astronautes, là, sont beaucoup plus, je dirais, ce sont des personnages plus attachants. Si, il y a beaucoup plus d'humour dans la série, c'est le temps du rock'n'roll, enfin, la musique est beaucoup plus cool. Et donc, ça donne un côté plus fun, je pense, aussi à la série. C'est plus marrant à regarder.
Peu de temps après, aux premières lueurs de l'aube, heure de Houston, Pete Conrad nous prouva autre chose. À moi d'abord, et ensuite au monde entier, il allait témoigner de son incomparable éloquence.
Charles Pete Conrad Jr., sera donc le troisième homme à poser le pied sur la Lune. On se souvient tous de Neil Armstrong et des mots qu'il prononça. Regardons et écoutons les mots que Conrad a choisi de prononcer en ce moment historique.
Youpi ! Bon sang, c'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'en est un grand pour moi.
Voilà, eh bien, vous l'avez entendu. Youpi.
Tout au long de la série, il y a plusieurs intrusions d'images réelles, comme par exemple aussi les manifestations qui ont eu lieu durant les années 60, ou les enterrements, ou encore le décollage des fusées à certains moments. Donc ça va quand même représenter des moments assez forts dans la série, qui sont plus poignantes, je dirais, que les images fictives, parce qu'elles vont quand même apporter de l'émotion. Une émotion que la série va quand même avoir du mal à faire passer, je trouve.
C'est toujours le risque, j'ai l'impression, des séries un peu documentaires, ou alors qui veulent apprendre une histoire aux gens. On a déjà eu le problème, notamment avec... on en avait parlé avec Holocaust, on en a parlé aussi avec Les Aventures d'un jeune Indiana Jones, qui était aussi une série très descriptive et qui voulait tenter d'apprendre l'histoire aux jeunes. Je crois que c'est un problème récurrent.
Et surtout ici, on est plutôt en train de suivre ce qui se passe dans les hautes sphères, au niveau du gouvernement, etc. On n'est pas du côté du public, on n'est pas du côté des gens. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce moment ? Donc évidemment, c'est moins émotionnel, puisqu'on sait que c'est calculé, on sait qu'il y a d'autres enjeux derrière, qui sont nettement moins... touchant, puisque c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de domination.
Et en plus aussi, la conquête spatiale va durer de 61 à 72, et tout au long de cette époque, on va avoir différents astronautes qui vont faire les missions, et donc on va avoir du mal à s'attacher, vu que les personnages changent tout le temps, surtout durant les 6 premiers épisodes. On va donc avoir du mal à s'y attacher. Maintenant, c'est vrai qu'à partir de l'épisode 7, les personnages vont être un peu plus récurrents et beaucoup plus attachants.
Pourquoi ? Parce que le défilement des événements se fait plus lentement à partir de l'épisode 7 ? Et donc, de ce fait-là, on reste plus longtemps avec les mêmes personnages, ou bien parce que les personnages sont plus récurrents sur le temps?
Non, en fait, je pense que c'est parce que les 6 premiers épisodes, on va surtout s'attacher aux faits historiques. Mmh. Alors qu'après, on va plutôt avoir des épisodes différents.
Et pourquoi justement ? Parce que après le fait qu'on a mis le pied sur la Lune, il n'y a plus d'enjeu.
Voilà.
Et donc, quelque part, on continue parce qu'il faut bien continuer, mais on prend ça un peu plus par-dessus la jambe, peut-être.
Oui, voilà. Donc, les personnages vont être plus proches. Et puis, par exemple, on aura un épisode sur les femmes des astronautes. C'était quand même assez marrant. Et le dernier épisode, lui, qui commence par la réalisation du film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Donc, on a des choses assez différentes et c'est pas plus mal, en fait. Mais donc c'est vrai quand même que la récurrence des personnages dans la fin de la série va être pas mal. Point de vue des personnages, déjà, c'est vrai qu'au début, on fait un portrait de personnages qui ont réellement existé, à certaines exceptions près, par exemple Tom Hanks, lui qui joue le rôle de narrateur au début de chaque épisode, qui se trouve en face d'une espèce de fresque comme ça avec Apollon, pour renvoyer au programme Apollo. Maintenant, il tiendrait aussi un véritable rôle dans le dernier épisode où il joue l'assistant de Georges Méliès. C'est le seul véritable rôle que Tom Hanks tiendra dans la série, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on voit quand même pas mal sur la pochette.
Georges Méliès, qui, pour ceux qui ne se rappellent pas, est donc le réalisateur de La Terre à la Lune, justement, le film très très ancien qui a marqué l'histoire du cinéma.
Premier truqueur et le premier magicien du cinéma au début du XXe siècle.
Un autre personnage qui, lui, sera fictif et qu'on retrouve tout au long de la série, c'est le journaliste TV Emmett Seaborn, qui est joué par Lane Smith, qu'on a pu notamment apercevoir dans Lois et Clark, qui jouait le rôle du directeur en chef du Daily Planet. Avec ce personnage fictif qu'on retrouve tout au long de la série, on arrive quand même à avoir une certaine continuité. Et donc, ça, c'est quand même important, je pense, aussi.
Est-ce que c'est pas justement un personnage fictif, un petit peu, qui est là pour faire le lien entre les spectateurs et les événements qui sont en train de se produire? Est-ce qu'il, lui, explique plusieurs choses, ou bien il a juste un petit rôle, je sais pas trop?
Oui, lui, donc, c'est le présentateur TV qui va être l'interface entre la NASA et le public qui est derrière sa télévision.
Donc, en quelque sorte, nous aussi, en fait, puisque c'est lui un petit peu qui réussit à faire le lien entre ces événements.
Oui, voilà.
Ta conclusion sur cette série?
Pour conclusion, c'était un documentaire très instructif, je pense, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le domaine de la conquête spatiale. Au début de la série, c'est un peu trop technique, je trouve. Et donc, par moments, on s'ennuie, on décroche un peu. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que c'est historique, on n'arrive pas à distinguer les personnages. C'est sûr que l'intrusion des images réelles dans la série, ça va donner de la force aussi.
C'est une bonne entrée en la matière pour quelqu'un qui voudrait découvrir la conquête spatiale.
Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on disait aussi tout à l'heure que pour les élèves, ça pourrait être intéressant.
Une bonne base, en tout cas.
Voilà, une bonne base.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.